Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Ici même aux États-Unis, les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd à Minneapolis ont été tous inculpés de meurtre, mais les manifestations ont continué. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de l'opposant Agathon Rwasa et proclamé Évariste Ndayishimiye vainqueur de la présidentielle. Le Sénégal allège le couvre-feu après deux nuits de grogne populaire. Au Cameroun, syndicats et associations de presse affirment que le journaliste Samuel Wazizi est mort en détention. Côté gouvernement, c'est toujours le silence radio. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Actualité oblige, nous commençons par les États-Unis. Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre. Les manifestations ont continué, mais la nuit dernière a été un peu plus calme, sans incident majeur. Nathalie Barge.
Les chefs d'accusation visant le policier qui a asphyxié George Floyd avec son genou ont été requalifiés de meurtre non prémédité, passible de 40 ans de prison. Les trois autres agents sont poursuivis pour complicité et placés en détention. Les manifestations, accompagnées de pillages ces derniers jours, se sont poursuivies dans plusieurs villes sans aucun débordement majeur. Des dizaines de personnes ont été interpellées à Brooklyn et Manhattan pour non-respect du couvre-feu. Les horaires du couvre-feu ont été assouplis à Washington et à Los Angeles, où ils devraient être levés ce soir. C'est déjà le cas à Seattle. À Washington, un important dispositif policier a été déployé pour boucler les accès à la Maison-Blanche. À Los Angeles, le maire Eric Garcetti a accepté de réduire le budget de la police pour investir 250 millions de dollars dans des programmes destinés aux communautés noires.
La chancelière allemande Angela Merkel s'est exprimée aujourd'hui. Elle a dénoncé le meurtre de l'afro-américain George Floyd par des policiers et le racisme qui frappe, selon elle, une société américaine très polarisée. La Cour constitutionnelle du Burundi a rejeté jeudi le recours du principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai et ont proclamé président élu le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Les recours du chef du Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielles, législatives et communales sont nuls et de nul effet, a annoncé la Cour, qui a ensuite validé les résultats définitifs, donnant le général Ndayishimiye vainqueur de la présidentielle avec 68% des voix. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé un allègement du couvre-feu nocturne et une reprise des transports entre les villes après deux nuits de violentes protestations contre les mesures destinées à contenir la propagation du coronavirus. Le point avec Nanit Talani.
Le couvre-feu qui entrait en vigueur à 21h temps universel est repoussé à 23h et prend fin à 5h du matin, a déclaré Ali Ngoui Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, qui a aussi annoncé la levée des restrictions de transport sur toute l'étendue du territoire national. Les restrictions sont également assouplies pour les réunions dans les lieux publics ou privés, les restaurants, salles de sport et les casinos. Le gouvernement sénégalais recule face à la pression de la rue. Ces deux dernières nuits, Dakar et plusieurs villes se sont embrasées. Des Sénégalais sont descendus dans les rues pour brûler des pneus, dresser des barricades et jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Les policiers et les gendarmes les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène et plus de 200 personnes ont été interpellées. Fait exceptionnel, la contestation a touché la ville religieuse de Touba, deuxième ville du pays, à quelques 200 km à l'est de Dakar. Des véhicules de la police et une ambulance ont été incendiés et le centre de traitement des malades du Covid-19 a été attaqué.
La force européenne Tabouka débutera ses opérations au Sahel cet été avec une centaine de militaires, a annoncé Florence Parly, la ministre française des armées. Ce projet, destiné à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes, a été monté à l'initiative de la France, dont 5100 militaires sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Au Burkina Faso, plus de 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, a indiqué le gouvernement. C'est environ 500 000 personnes de plus qu'en 2019. Le Conseil des ministres a adopté un plan de 25 milliards de francs CFA de soutien aux populations vulnérables. Depuis plusieurs années, la région du Sahel burkinabé fait face à une sécheresse récurrente ainsi qu'à la cherté des denrées alimentaires. L'afflux massif de quelque 800 000 déplacés internes fuyant les attaques djihadistes et les violences communautaires ont exacerbé la situation dans le nord et le centre-nord du pays. Au Cameroun, les organisations internationales pour la défense de la presse et les syndicats locaux des journalistes font pression sur le gouvernement de Yaoundé pour faire la lumière sur la mort en détention du journaliste Samuel Wazizi. Arrêté en août 2019 pour avoir critiqué la gestion de la crise anglophone. Depuis, Wazizi n'a pas été revu en public. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Le journaliste Samuel Wazizi est bien mort pendant sa détention, a confirmé hier soir Reporters sans frontières dans son communiqué. Cette information a été donnée la veille par une chaîne de télévision privée locale, puis par le syndicat national des journalistes camerounais. Le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, Anthony Bélanger, exige toute la vérité sur cette mort. Nous sommes extrêmement troublés par les informations récentes faisant état de la mort du journaliste en garde à vue et demandons aux autorités de rendre compte immédiatement et publiquement de son sort, a déclaré Angela Quintal, coordinatrice du programme Afrique de CPJ. Présentateur de la chaîne de télévision chilienne Media Television, Samuel Wazizi a été arrêté le 2 août 2019 à Boya, chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest. Il serait accusé d'avoir tenu sur sa chaîne des propos critiques à l'égard des autorités sur la gestion de la crise dans les régions anglophones. Depuis son arrestation, Samuel Wazizi n'a jamais été présenté devant la justice et son lieu de détention n'a jamais été révélé. Le gouvernement et l'armée n'ont jamais réagi et n'ont pas encore confirmé la mort du journaliste.
À Madagascar, la ministre de l'Éducation a été limogée aujourd'hui, quelques jours après avoir envisagé l'achat pour les élèves du pays de bonbons destinés à adoucir le goût de la tisane vantée par le président Andry Rajoelina pour lutter contre le coronavirus.
Au Mozambique, la recrudescence récente des attaques islamistes dans l'extrême nord du pays a fait monter à plus de 200 000 le nombre des déplacés dans la province du Cabo Delgado, a indiqué le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires. Depuis octobre 2017, des djihadistes ont multiplié les attaques meurtrières contre des villages de cette région riche en ressources naturelles. En Libye, les forces du gouvernement d'Union ont affirmé aujourd'hui contrôler tout Tripoli et sa banlieue dans le sillage d'une série de revers du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Cette annonce intervient après plusieurs succès des troupes du GNA, dont la reprise hier de l'aéroport international aux mains des pro-Haftar depuis avril 2019.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pandémie de coronavirus, l'Amérique latine souffre toujours. Le Brésil en tête a franchi un nouveau record de morts. En Iran, il y a un rebond de nouveaux cas alors que l'Europe rouvre ses frontières. Jacques Aristide.
Le Brésil a répertorié près de 1400 morts du coronavirus en 24 heures. Un couvre-feu a été imposé dans une partie du pays. Le géant latino-américain se trouve à la quatrième place mondiale pour les morts. Derrière les États-Unis, de loin, le pays le plus frappé avec 107 000 morts. En Europe, la vie reprend peu à peu ses droits. Ce jeudi, l'Autriche rouvre ses frontières, à l'exception de celle avec l'Italie, l'Allemagne et la Belgique prévoient de faire de même le 15 juin. Les Pays-Bas ont de leur côté annoncé l'assouplissement des restrictions sur les voyages dans plusieurs pays européens. À partir du 15 juin également, l'Italie, où le secteur touristique est vital, a devancé tout le monde en rouvrant ses frontières aux touristes depuis hier. En Iran, 3574 personnes ont été contaminées en 24 heures, un record qui inquiète les autorités, lesquelles multiplient les avertissements et disent à la population de ne pas oublier que la maladie est toujours là. Dans le monde, la pandémie a fait environ 386 000 morts et plus de 6 522 000 infections ont été diagnostiquées.
Journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Ekia Badou.
Les actions de Wall Street ont baissé jeudi, tandis que les États-Unis ont signalé une nouvelle hausse du chômage. La semaine dernière, 1,9 million de personnes supplémentaires ont déposé une demande d'allocation chômage, a rapporté le ministère du Travail, portant le total à plus de 42 millions de demandeurs d'emploi. Le taux d'inflation dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a enregistré une légère remontée de 0,02% au mois d'avril 2020, comparé au mois précédent. C'est ce qu'indique la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCEAO a également noté une baisse des prix du gasoil et du pétrole, lampant notamment au Burkina Faso, au Mali et au Togo, dans le sillage de la baisse des cours internationaux de brut. Les administrateurs de la Banque africaine de développement ont approuvé le 2 juin 2020 un financement de 6,3 milliards de francs CFA en faveur de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Ce financement sous forme de dons tirés sur le guichet du Fonds africain de développement vise à apporter une réponse régionale à la pandémie du coronavirus.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Direction le Mali pour commencer avec la reprise à petit feu des entraînements chez certains clubs de football en Ligue 1. Après le Djoliba AC la semaine dernière, le stade malien de Bamako a retrouvé son centre d'entraînement. La saison 2019-2020 n'est pas encore bouclée et la fédération compte bien le faire. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous fait le point de la reprise des entraînements du stade malien.
Les entraînements ont repris dans une atmosphère bon enfant. Malgré la maladie à coronavirus, selon le coach du stade malien de Bamako, Djibril Dramé, plus de 2 mois sans football, l'envie s'était vite sentie chez les joueurs. C'est pourquoi ils sont revenus beaucoup plus motivés et requinqués à renouer avec la tradition. Pour la saison qui s'achève, l'objectif est clair. Il s'agira pour les Blancs de Bamako de faire partie des 2 représentants du Mali aux compétitions africaines. L'atteinte de cet objectif est bien possible, a indiqué le coach Dramé. Premier de sa poule à une journée de la fin du championnat, avant les matchs du Carré d'As, il s'agira pour le stade malien de Bamako d'aller à la conquête du titre de champion et de remporter la Coupe du Mali. 2 défis majeurs à la portée du stade malien selon son coach. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
En Tunisie, la Fédération de football a annoncé que les Aigles de Carthage reprendront leurs entraînements lundi prochain à la faveur d'une levée des mesures de restriction pour la Ligue 1, le championnat national. La fédération a fixé sa reprise à huis clos le 2 août. Les entraînements pourront redémarrer également à huis clos début juin. Le lancement de la prochaine saison 2020-2021 de la Ligue 1 est lui prévu le 31 octobre. La sélection tunisienne devait disputer en mars 2 matchs contre la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, mais ils ont été reportés. Le guide sanitaire de reprise prévoit des matchs à huis clos, sans embrassade ni accolade, et des entraînements en plein air avec un suivi médical spécifique des joueurs qui devront être testés au coronavirus. Ici aux États-Unis, la star du foot féminin Megan Rapinoe ne participera pas à la Challenge Cup organisée fin juin dans le Utah par la Ligue nord-américaine, selon Farid Ben Titi, l'entraîneur français de l'OL Reign, club de Seattle où évolue l'attaquante américaine. C'est dommage, je comprends ses motivations, mais je suis déçu et frustré qu'elle ne soit pas avec nous pour disputer ce tournoi, a regretté Farid Ben Titi. La crise sanitaire persistante aux États-Unis, les craintes de se voir transmettre le virus et le nombre de matchs programmés sur un mois, 25, ont convaincu l'attaquante de 34 ans de s'abstenir. La participation à la Challenge Cup se faisant sur la base du volontariat pour toutes les joueuses de la Ligue nord-américaine de foot féminin, la lauréate du dernier Ballon d'or féminin ne s'expose à aucune conséquence financière. Le tournoi auquel participeront les 9 clubs de la Ligue nord-américaine de foot féminin se déroulera à huis clos du 27 juin au 26 juillet à Harriman et dans la banlieue de Salt Lake City.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Sénégal, les manifestations anti-confinement qui ont commencé dans la ville sainte de Touba, au centre du pays, ont fini par gagner plusieurs villes. À Dakar, des manifestants ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre. L'armée et la police ont été déployées dans certains quartiers pour contenir les troubles. Le président Macky Sall a instruit ses ministres de travailler avec les partenaires du secteur des transports à la levée des restrictions. Pourquoi des manifestations violentes pour réclamer la levée des restrictions? Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Bouba Diop, enseignant d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Je crois que ces actes de violence traduisent un ras-le-bol. Les populations ont eu le sentiment que ce confinement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, et puis ils ont le sentiment que le gouvernement est en train de tourner en rond. Cette colère continue à exploser, donc l'art de gouverner, c'est de prévoir, c'est de rassurer.
Le gouvernement a sorti l'armée et la police pour empêcher les casses et autres. Le président Macky Sall dit avoir instruit ses ministres pour qu'ils travaillent avec les partenaires des transports pour voir dans quelle mesure les restrictions peuvent être levées. Est-ce à dire que ce début de solutionnement apporté pourrait calmer les manifestants?
Je crois que ces mesures peuvent effectivement apaisé, mais le fond du problème, c'est le règlement de l'ensemble des questions. Parce que d'autres secteurs vont pouvoir également réagir. Il faudrait une réflexion globale bien articulée, régler les questions à la fois sanitaires, les questions économiques, les questions culturelles, éducatives, et c'est tout cela.
Est-ce que finalement, la population a perdu confiance en la capacité du gouvernement de régler cette question de pandémie de coronavirus tout en leur permettant de pouvoir vaquer à leurs occupations pour subvenir à leurs besoins quotidiens?
Il y a des signes qui ne trompent pas. Les populations n'ont pas, dans leur grande majorité, confiance à l'État. Je pense également les leaders d'opinion, les chefs coutumiers, les guides spirituels, ça s'est effrité. Je crois que le départ avait été tonitruant. Beaucoup de gens ont répondu, même les plus radicaux, à l'appel du président au départ. Mais aujourd'hui, les différents secteurs se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup plus de théâtralisation, beaucoup de bruit, mais sur le plan concret, l'essentiel, la question de la santé, la question de l'école, ces questions économiques, même les soutiens aux populations, il y a des secteurs qui ont montré qu'ils ont été secourus, mais l'écrasante partie de la population n'a pas senti les effets.
Justement, la question qui se pose, peut-être pas seulement au Sénégal, mais aussi à d'autres pays, c'est comment protéger les citoyens contre la pandémie sans porter atteinte à leurs moyens de subsistance. Comment il faut faire?
Le défi qui est posé, c'est le défi de la coordination d'abord des activités. Au Sénégal, on a été rattrapé par un problème très sérieux. Le poste de premier ministre a été supprimé. Le président a voulu être devant. Est-ce qu'il peut coordonner tout cela? C'est pas possible. Les différents ministres santé, de l'intérieur, ministres qui s'occupent des questions communautaires. Tout cela, ça fait un désordre terrible. Donc, on est rattrapé par les problèmes de gouvernance. Il faut régler le problème de la coordination quand on gère un pays, le problème de la décentralisation des activités. Il y a des problèmes aussi de crédibilité. Quels sont les acteurs au niveau de la société civile, au niveau du privé, au niveau de l'État? Donc les problèmes de compétences. Il faut revenir à ces questions sérieuses liées à la communication, la bonne communication. La communication doit être multilingue, multimédia, multiscript.
C'était le professeur Bouba Diop, enseignant d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le journaliste camerounais Samuel Ouazizi, arrêté en août 2019 pour avoir critiqué la gestion par Yaoundé de la crise anglophone au Cameroun, est mort en détention selon Reporters sans frontières, qui appelle les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Présentateur de la chaîne de télévision nationale Chilen Media Télévision, Samuel Ouazizi avait été arrêté le 2 août 2019 à Buea, chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest. Pour une réaction, Bagasikoura joint à Yaoundé Denis Kwembo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
Samuel Ouazizi est un animateur de télévision qui travaille dans une chaîne en zone anglophone au sud-ouest du Cameroun. Samuel Ouazizi a été interpellé le 2 août 2019 à Buea et gardé dans les locaux de la police. Après 4 jours de garde à vue, il a été exfiltré de sa cellule par des éléments de force de sécurité. Et depuis cette date, tout le monde était sans nouvelles de lui. Ses confrères, ses amis toute la communauté des journalistes du Cameroun était sans nouvelles de lui jusqu'à ce que la date de sa mort soit annoncée il y a de cela 2 jours.
Et que disent les autorités?
Les autorités, pour l'instant, n'ont pas réagi à l'annonce de la mort de Ouazizi. Les organisations de la presse se sont prononcées et ont demandé ce que les autorités camerounaises disent, au moins le lieu, la date et les circonstances du décès de Ouazizi, et qu'éventuellement aussi le corps soit remis à la famille. Et on est sans réponse. Et les autorités avaient jusqu'à 18 heures ce jour pour répondre aux organisations de la presse. Et là, manifestement, on devra peut-être encore attendre.
Cela veut dire qu'on ne sait pas exactement pourquoi il a été enlevé et probablement tué.
Alors, on sait qu'au moment où Ouazizi était dans les locaux de la police à Buea, il était accusé, entre autres, d'être de connivence avec les sécessionnistes anglophones qui sévissent dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest et qui leur servaient de base les logistiques, d'abord dans sa plantation. Il était en lien avec eux, c'est tout ce qu'on savait, sans plus. Mais étant donné qu'il n'a pas eu droit à un procès, personne ne peut en dire davantage.
D'une manière générale, quelle est la situation des journalistes qui travaillent en zone anglophone, notamment qui fréquentent les séparatistes?
Les journalistes qui travaillent dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, ils sont pris entre les feux des séparatistes et les feux de l'armée qui luttent contre les séparatistes. Et c'est une situation assez difficile, parfois dramatique. Il y a des journalistes, beaucoup de confrères, y compris des membres de notre syndicat, ont été enlevés par les séparatistes avant d'être libéré par la suite. Donc, il n'y a pas de liberté de rester dans cette zone anglophone-là, du fait de tout le monde, et pour des raisons évidentes.
C'était Denis Kwembo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République démocratique du Congo, une 12e épidémie d'Ebola s'est déclarée, mais cette fois, elle est de retour à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, dans l'ouest du pays. Le pays se bat aussi depuis 2 ans contre le virus dans l'Est. À cela s'ajoute la pandémie de Covid-19 qui a déjà touché un peu plus de 3600 personnes. Eddy Sango a joint à Kinshasa le directeur national de l'hygiène aux frontières, le docteur Dédé Ndungi Ndungi.
À ces jours, ou sinon jusqu'à hier soir, nous avons enregistré 11 cas qui se sont avérés positifs localement au niveau de Mbandaka, et parmi lesquels il y a déjà 4 confirmés au niveau de l'INRB Kinshasa. On a pu lister 125 contacts de ces 11 cas. Mais retenez aussi que parmi les 11 cas, il y a un qui est de Bikoro, il n'est pas de Mbandaka. Donc toutes les commissions sont mises en place et le travail c'est fait déjà à ce jour.
Ebola aurait fait surface à Mbandaka dans l'Équateur alors que la RDC se bat encore pour en finir avec l'autre épidémie dans l'Est. Comment faites-vous pour gérer les deux ensemble?
C'est vrai que c'est la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola et que beaucoup de ces épidémies ont été rencontrées au niveau de l'Équateur. Donc ça signifie que localement, il y a déjà des compétences sur lesquelles nous pouvons compter. Mais nous avons au niveau central centrale diligenter une équipe d'experts qui travaillent, qui accompagnent les gens qui travaillent localement en Bandaka. Et du côté de l'Est, nous avons encore des experts qui sont là, qui continuent à maintenir la surveillance épidémiologique, surtout que ça remonte à plus de 56 jours qu'il n'y a pas de cas positifs à l'Est. Donc, on s'emploie quand même à bien faire le travail de part et d'autre.
Est-ce que cela ne vient pas compliquer votre travail, surtout que la Covid aussi s'accroît en RDC? Il y a un grand nombre maintenant à Kinshasa. Ça et même les provinces qui n'étaient pas touchées sont maintenant touchées.
Oui, comme vous le dites, c'est un problème qui s'ajoute parmi tant d'autres problèmes que nous avons au niveau de la République. Il n'y a pas qu'Ebola, il n'y a pas que Covid-19, mais il y a la rougeole, il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont là, il y a beaucoup d'autres épidémies, donc choléra par exemple, tout ça. Mais nous avons suffisamment de ressources humaines capables d'être déployées dans tous ces fronts pour améliorer les choses sur terrain. Donc, on s'emploie avec des plans déjà réalisés et réalistes pour qu'on puisse maîtriser la situation au niveau de Mbandaka.
Vous parlez des moyens humains, mais est-ce qu'il y a des ressources financières et matérielles pour faire face à toutes ces épidémies à la fois, puisque déjà avec la Covid, la RDC a dû avoir des soutiens.
Donc, oui, mais c'est comme vous venez de le dire, hein, la République démocratique du Congo dispose suffisamment de ressources humaines. Mais là où nous avons un gap à combler, c'est un rapport avec les ressources matérielles et financières. Les partenaires qui nous écoutent, ceux qui peuvent aider la République, pour moi, c'est une opportunité de mener ces plaidoyers de façon à pouvoir nous soutenir par rapport à cette 11e épidémie de la maladie à virus Ebola.
C'était le docteur Dédé Ndungi Ndungi, le directeur national de l'hygiène aux frontières de la République démocratique du Congo à Kinshasa. États américains et Washington DC, la capitale du pays, ont tenu mardi des élections primaires. C'était au milieu des manifestations contre la brutalité policière et la pandémie de coronavirus. Avec toutes les manifs contre le racisme, Joe Biden, l'ancien vice-président démocrate, est sorti renforcé dans sa quête pour l'investiture de son parti dans la course très polarisée à la Maison-Blanche. Le reportage de Brian Padden de la VOA, relaté par Gabi Dorsil.
Sans opposition majeure au sein de son parti, l'ancien vice-président Joe Biden a remporté plusieurs primaires cette semaine. Il se rapproche ainsi de l'investiture démocrate pour faire face au président Donald Trump le 3 novembre prochain. Les résultats de ces primaires ont été sans surprise car de nombreux partisans de Biden sont toujours très motivés, donc très mobilisés. Comme en témoigne Nicola Utilo, un électeur du Rhode Island.
Il est très important de pouvoir venir ici ce matin et remplir un cercle à côté du nom de quelqu'un qui, je suis sûr, va restaurer l'honneur et la décence à la présidence.
Plusieurs jours de manifestations tendues, parfois violentes, pour protester contre la mort de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, ont ravivé les tensions raciales aux États-Unis, alors que le pays continue de lutter contre la pandémie de coronavirus et le chômage massif. Le président Donald Trump a affiché lundi la fermeté contre les manifestations violentes, les pillages, et a même menacé de déployer l'armée américaine pour rétablir l'ordre public.
I will fight to protect you.
Je vais me battre pour vous protéger. Je suis votre président de la loi et de l'ordre et un allié à tous les manifestants pacifiques.
En revanche, Joe Biden a appelé à l'unité et l'empathie pour répondre à ces troubles.
For that's what the presidency is. The duty to care.
C'est ça la présidence, le devoir de prendre soin de nous tous, pas seulement de ceux qui votent pour nous, mais de nous tous, pas seulement de nos donateurs, mais de nous tous.
Les détracteurs du président Trump ont déclaré que sa rhétorique et ses actions pour obliger les forces de l'ordre à repousser les manifestants pacifiques à l'extérieur de la Maison-Blanche ont transformé le droit de manifester, un droit fondamental, en un problème de campagne électorale conflictuelle menaçant la démocratie elle-même. Alan Lichtman, professeur d'histoire à American University, ici même à Washington.
I think we are at a pivot point.
Je pense que nous sommes à un tournant de notre démocratie. Je ne pense pas que nous devons écouter le discours de Donald Trump lundi soir. Son invocation d'une solution militaire au-delà de l'impact immédiat et le voir comme une tendance vers l'autocratie.
Mais la réponse plus modérée de Biden aux manifestations risque d'aliéner les électeurs indépendants qui veulent des mesures fortes face à la destruction de biens et au pillage.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Clément Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.